l'histoire de sa vie, une autobiographie en 4 volumes, et avant, un livre titanesque, massif et puissant.
Avec masse et puissance, il voulait prendre le siècle à la gorge. Et ce siècle, c'était, dans les années 30-40, l'avènement du national-socialisme et du nazisme. Et il a dit plusieurs années plus tard, en fait, quiconque a su lire Masse et puissance a vu que c'était un livre sur le nazisme, contre le nazisme. Alors évidemment, qui embrassait de larges pans de l'histoire humaine, jusqu'à l'avènement des systèmes totalitaires, même s'il ne parle pas explicitement ni du stalinisme, ni du nazisme.
Prénom ?
Elias.
Nom ?
Canetti.
Date de naissance ?
25 juillet 1905, à Rousset, une ville bulgare, une vraie mosaïque de nationalité. Il pratiquera de nombreuses langues, mais la première sera le judéo-espagnol, parlé avec une piété filiale par la famille, jusque sur les bords du Danube.
Alors, sa famille, justement ?
Le père, commerçant, l'a amené en Angleterre, où il va mourir brusquement en 1912. La mère la conduira un peu partout en Europe, au gré de ses envies et des cours du change. Elle fera d'Elias son interlocuteur pour les arts et les lettres, exigeant que la conversation se tienne en allemand.
Il a deux frères.
Qui forment avec lui une trinité de génies. Jacques sera un grand producteur de musique, inventant nombre de chanteurs. Georges, plus proche, aurait pu prétendre lui aussi au Nobel, mais de médecine.
Ses études ?
Doctorat de chimie à Vienne. En 1924. Mais s'il se fixe dans cette ville, c'est pour y participer à la vie littéraire.
Un mariage ?
En 1934, à Vienne, avec Vesa Topner Calderon, qui sacrifiera son œuvre propre pour devenir son agent littéraire. Elle ne verra pas son Nobel.
Puis il y aura l'exil.
En Angleterre, avec Vesa, 1939.
Et le prix Nobel, en 1981 ?
Il lui est attribué comme un auteur autrichien, mais il aime aussi bien se dire écrivain espagnol de langue allemande. Il vit alors surtout à Zurich, en Suisse, avec sa seconde épouse, Hera Buscor.
Ses œuvres principales ?
Un grand roman, en 1935, Auto da Fé. Un court texte qui va avoir beaucoup de succès dans les années 60, Les voix de Marrakech, mais c'est son autobiographie qui lui vaut le Nobel. Il s'est consacré, ce sera notre thème principal, pendant 30 ans, à un grand travail d'anthropologie très personnelle, masse et puissance.
Et sa mort ?
Zurich, le 14 août 1994.
France Inter. Intelligence, service. Jean Lebrun.
Sachez, Monsieur Lebrun, que tout ce que vous dites est enregistré. Pour commencer, pouvez-vous nous donner des éléments qui expliquent l'ouverture de ce dossier ? Je vous écoute.
Nous avons affaire avec un homme qui, d'expérience, a vécu à Vienne, à Londres, la menace du nazisme. Et il a consacré 30 ans de sa vie à étudier l'attrait que peuvent exercer les meutes, la menace de mort que font planer les despotes. Et ça a donné ce livre immense, je disais titanesque, océanique, Masse et puissance, qui n'a pas de suite atteint le succès. Ainsi, en 1981, n'était-il pas encore si connu, si reconnu, quand...
L'Académie a décidé d'attribuer le prix Nobel à Elias Canetti.
C'est le 78e lauréat du prix Nobel de littérature. C'est un écrivain de langue allemande. Personne n'a pu le joindre en aucun de ses domiciles. Il est introuvable. On pense quand même que son éditeur a réussi à le joindre.
En 1945, au plus creux de l'exil, il criait « une œuvre, mon royaume pour une œuvre ». Il n'avait encore publié qu'un très grand roman en 1935. Masse et puissance, ce sera donc plus tard, en 1960. Et en réalité, c'est son autobiographie qui parviendra enfin à retenir l'attention. Il faut dire qu'elle est assez extraordinaire. Elle commence dans une ville déliée, inventive, romanesque, dans la jeune Bulgarie. On qualifie Canetti rarement d'écrivain bulgare. En voici un, Yorgan Radichkov, qui parle ainsi de la ville natale d'Elias, Rousset.
Les Bulgares ont toujours tourné leur regard vers la terre ferme, vers les champs et les monts des Balkans. Mais tout en tournant le dos au Danube, ils sont pourtant toujours restés à l'écoute de ce que transportait ce fleuve majestueux qui frotte un de ses flancs contre leur terre. C'est au cours du siècle dernier que font leur apparition les premiers navires en provenance d'Europe. En même temps apparaissent dans les villes, le long du fleuve, les meubles viennois, les miroirs viennois, l'opérette, etc. L'esprit entreprenant des Bulgares s'emballe si vite que plus tard, bien avant qu'il y ait l'énergie électrique en Bulgarie, parvient d'Europe, sur un bateau, le premier ascenseur destiné à être installé dans un hôtel de la ville natale d'Elias Canetti, Rousset. Comme il n'y avait pas le courant, deux tziganes avaient été préposés à l'ascenseur. Ils faisaient monter et descendre les clients à la force des bras. Le long du Danube, beaucoup d'autres idées européennes sont arrivées jusqu'aux rives bulgares. Quelques-unes se sont répandues à travers les champs, mais je n'ai personnellement jamais entendu dire qu'elles se soient adaptées à notre climat et à nos habitudes. Et je n'ai pas trouvé une seule idée européenne ayant descendu le cours du Danube qui ait été domestiquée. Je suppose que, pour une part, ces idées sont mortes et que les autres sont retournées à l'état sauvage. Et il est possible qu'un jour on en retrouve dans les bois, dans les marais ou les étangs, ou dans les étendues de roseaux, le long de la mer. Jordan Radichkov.
Et dans ce pays un peu énigmatique, comment on peut être juif ? Alors c'est une question que se pose dans un excellent numéro de la revue Europe consacré à Canetti, Martine Lebovici.
Les gens se désignent par une appartenance, et aussi des langues. Et on n'a pas un melting pot, on a une mosaïque. C'est-à-dire que, si on le suit, les gens se reconnaissent avec le nom d'une ethnie ou d'un peuple. Il y a des tziganes, il y a des hongrois, il y a des roumains, il y en a qui parlent allemand, il y a des juifs. Hein. Et je crois que ça devait aussi être comme ça en Égypte. C'est pas comme, si vous voulez, dans un pays multiculturel, avec une langue commune, etc. C'est vraiment, à la fois les gens sont séparés, mais en même temps, les autres sont présents dans les échanges quotidiens, dans les, quand on va au marché, ou... Mais en même temps, il y a une appartenance. Et ce que raconte Canetti, c'est comme si, enfin, ce qu'on peut imaginer de ce monde-là, c'est qu'on a une ou deux langues, on a aussi les autres langues dans l'oreille, hein, qu'on entend, et puis, on en parle aussi quelques-unes. Et d'ailleurs, dans l'autobiographie de Canetti, c'est même une espèce de gloriole que chacun se fait d'être multilingue, de parler plusieurs langues. Et on méprise un petit peu, par exemple, les petites paysannes bulgares qui n'en parlent qu'une.
Alors, dans cette nouvelle Bulgarie, le bulgare n'est pas en haut de l'échelle, mais la langue que parle la famille Canetti, le judéo-espagnol. Vous allez entendre Canetti lui-même, dans son excellent français, dire que sur les juifs espagnols et leur place dans la littérature, il a des doutes.
Quand on m'a raconté que ces juifs espagnols avaient eu le grand poète, le grand philosophe, des choses pareilles, et je regardais, il n'y avait personne, c'était lamentable ce qu'il y avait là, j'ai vraiment fait la décision de vouloir être un de ces grands personnages. Je n'ai pas mis ça là dans lui parce que c'est un peu ridicule, mais je me rappelle comme je me suis dit ça, je veux, c'est ridicule, je suis presque nationaliste. Je veux réintroduire la gloire des Juifs. Il ne faut jamais écrire ça, je t'en prie. La gloire des Juifs espagnols dans la littérature du monde, ou être un philosophe, ou un grand médecin, ou une chose pareille. Tu sais.
Dans l'histoire de ma vie, Canetti va mettre en avant des moments qui sont autant de nœuds. Premier nœud, 1910. Il a 5 ans. Un incident inattendu l'oppose à sa cousine, dont il était jusque-là inséparable, mais qui, plus grande que lui, avait le tort d'avoir commencé l'apprentissage de la lecture, qui lui était encore, à lui, interdit. Il la poursuit, armée d'une hache aussi grande que lui, parce qu'elle ne veut pas lui prêter ses cahiers. La mère en conclut qu'il a une passion pour les mots et les lettres. 1912, le père d'Elias a choisi d'emmener femme et enfant en Angleterre. Retenez cette phrase, le père dit « ce pays rend libre ». Elias pensera de même. Hélas, le père meurt brusquement d'un accident cardiaque en 1912. En 1914, troisième nœud, la mère et les trois frères se sont installés à Vienne. Et le jour de la déclaration de guerre, le petit Elias commet l'erreur d'entonner tout haut le God Save the King. Une foule hostile l'entoure aussitôt, il est sauvé par sa mère, mais il se fait cette observation qu'il va reprendre dans Masse et Puissance. La masse, dès qu'elle atteint un potentiel suffisant, peut constituer une menace pour qui n'en fait pas partie. Et, un an plus tard, Martine Lebovici, une masse encore, mais d'un autre type, faite de malheureux déplacés.
Alors là, donc, en 1915, on est à Vienne, la guerre a commencé, Elias Canetti a 10 ans, et il rentre de l'école avec un ami, Schiebel, qui est fils d'un général autrichien. Et voilà ce qu'il raconte. Un jour, dans le quartier du Schüttel, nous passâmes à proximité du pont de chemin de fer qui enjambe le canal du Danube. Un train bourré de monde était arrêté dessus. Les wagons de marchandises alternaient avec les wagons de voyageurs. Tous étaient pleins de gens debout, serrés les uns contre les autres et qui nous regardaient de là-haut, silencieux, sur le qui-vive. « Ce sont des Galiciens, » dit Schiebel. Et après un moment de réflexion employé à éviter le mot « juif », des réfugiés galiciens. Avec leurs cafetans noirs, leurs tresses sur les tempes et leurs chapeaux bizarres, on les distinguait aisément dans la foule. Par égard pour moi, ils tâchaient de ne pas céder à la répulsion que ces gens lui inspiraient. Je me tenais là comme enraciné, et lui, il restait planté à côté de moi, conscient de mon effroi. Alors c'est une scène absolument incroyable. Pour Schiebel, donc le fils d'un général autrichien, il n'ose pas dire le mot juif. Alors pourquoi il n'ose pas dire le mot juif? Parce que il sait que Canetti l'est. Mais c'est comme si employer ce mot serait dans sa tête mettre Canetti, Elias, dans une position difficile. Et donc Elias se rend très bien compte que c'est pour ça qu'il n'emploie pas le mot juif. Et donc il se sent une altérité par rapport à Schiebel lui-même. Mais lui-même, Elias, qui est un jeune homme de la bourgeoisie, il ressent par rapport à ces juifs galiciens avec leur comédie, avec leur cafetan, leur chapeau bizarre, leur cafetan, il se sent, comme il dit, glacé d'effroi, parce que à la fois ces gens-là lui sont complètement étrangers, mais en même temps très proches. Et je trouve cette scène absolument extraordinaire.
France Inter. Intelligence. Service. Jean Lebrun.
Le temps a passé pour Elias Canetti. Vienne, après 1918, n'est plus que l'ombre de la capitale qu'elle fut. Il tente d'y trouver son chemin d'écrivain. Il se sent proche de la Vienne rouge. 15 juillet 1927. Une date clé encore. Une date clé pour les affrontements de classe dans la ville et pour Elias Canetti. Un verdict inique a acquitté des miliciens d'extrême droite, pourtant responsables de meurtres. Et une masse protestataire, mécontente de ce jugement, assaille le palais de justice, mettant le feu aux archives. Le préfet de police Schöber donne l'ordre de faire feu. Il y aura près de 100 morts. Le commentaire de Karl Kraus, qui à l'époque est le grand satiriste de Vienne, et qui s'en prend dans son style au préfet.
Je peux vraiment dire de moi que je fis toute ma vie rien que mon devoir, puisque cela et rien d'autre est mon devoir. Citation authentique du préfet de police Schöber après le massacre du 15
juillet 1927. Meine Pflicht ist. Ja, was ist meine Pflicht? Bitte seht's denn das nicht? Das wäre so eine Geschichte, tät ich nicht meine Pflicht. Auf die Ordnung erwischt bin ich treu meiner Pflicht. Wenn ein Umsturz in Sicht, ich erfüll meine Pflicht. Die Elemente vernicht ich bezüglich der Pflicht. Doch wenn einer einbricht, hätte ich auch eine Pflicht. Nur erwisch ich sie nicht, wie es wäre meine.
Selon mon devoir, j'arrange tout à vouloir. De mes clients, la plupart, je dupe d'après le devoir. Sur ma mine, il faut croire, là est rien que devoir. Séduisant le seul regard, il ne parle que du devoir. Et mon cœur bat à l'égard seulement par le devoir. Le jury ne veut rien savoir de juger conforme au devoir. S'il acquitte les communards, on reste là le devoir. La fonction, toujours avoir, cela commande le devoir. En effet, osent certains gaillards méconnaître mon devoir. Mais procéder est un hasard, cela n'est pas mon devoir.
À cette date, c'est du côté de Karl Kraus que Canetti se range. Karl Kraus est alors son maître.
L'expérience de Vienne du 15 juillet, qui était pour moi vraiment une expérience incroyable. C'était une révolution, un modèle de révolution très petit, mais un modèle complet. Et j'ai appris, j'écris ça, qu'il y a une foule sans meneur, par exemple, ou qu'il y a une foule de fuite qui n'est pas en panique, ou des choses pareilles, qui sont très importantes plus tard. Et le feu comme symbole de masse, ce sont des choses qu'il a apprises ce jour. C'est là que je l'ai appris.
Et l'autre grand homme de Vienne de cette époque, le docteur Freud, Canetti observe qu'il est resté terré dans son cabinet et que sa grille de lecture par le complexe d'Édipe rend impossible de raconter l'histoire autrement que comme un drame bourgeois. Freud, ajoute Canetti, est prisonnier de son milieu. Tandis que lui, à entendre notre nouvel interlocuteur Nicolas Poirier, philosophe, il a fait un choix autre.
Il était du côté des manifestants, il était dans la foule, hein, même s'il n'a pas sans doute participé de près à l'événement, lui a fait comprendre ce qu'était l'importance du phénomène de la masse. Il dit « je devins une partie de la masse, je m'absorbais totalement en elle, je ne ressentais plus aucune réticence à m'absorber en elle, il a des masses fermées. »
Mais alors attendez, le 15 juillet 1927, lui, Canetti, il est dans la foule, oui. Ça veut dire que il n'a pas la position de l'individu qui, de surplomb, juge la masse.
Exactement. Il n'a pas de... Alors, et c'est ce qu'il dit, hein, je peux citer ce passage. C'est dans son autobiographie, et il dit à un moment donné, « Il faut concevoir ce sur quoi l'on réfléchit comme une donnée qu'il faut examiner en profondeur, c'est-à-dire qu'il faut d'abord éprouver directement et ensuite décrire. Cette description serait une sorte de duperie si elle n'était pas précédée par l'expérience vécue. Il faut avoir fait l'expérience vécue de la masse, de la révolte de la masse contre un pouvoir unique, pour pouvoir parler de la masse et de ses diverses manifestations. Sans jamais tenir la position de surplomb, qui serait la position du pouvoir, hein, et sans jamais, en fait, prendre position d'une certaine façon pour ou contre la masse. La masse peut être libératrice, émancipatrice, révolutionnaire, ce qu'il appelle la masse de renversement, pour renverser un ordre social inique, mais ça peut être aussi une masse destructrice qui délègue à une puissance mortifère le soin de la gouverner et de l'opprimer, hein, pour reprendre un schéma qu'on trouve dans la servitude volontaire de la Boétie. Voilà. Il y a différentes formes de masse, et il ne faut pas préjuger à l'avance de ce que peut être la masse dans son effectuation.
Encore une date à Vienne, Café Muséum. Canetti rencontre quotidiennement le professeur Abraham Sonnet. Il le prend d'abord pour un sosie de Karl Krausch. Il en est heureux parce que le vrai Karl Krausch commence à le décevoir quand il se rallie au chancelier Dollfuss qui a décrété une dictature, l'austrofascisme, seul moyen selon lui d'endiguer le nazisme. Abraham Sonnet, vieux juif fort savant en matière biblique et prophète, est tout à fait exempt de cette tentation. Nous sommes en 1937 maintenant. C'est dans la guerre d'Espagne que va se jouer la suite.
Je ne veux pas oublier ce jour où j'arrivais très excité au muséum et où Zonne m'accueillit en silence. Le journal était déployé devant lui sur la table et sa main posée dessus. J'oubliais de le saluer. La phrase avec laquelle j'allais me précipiter sur lui resta bloquée dans ma gorge. Il était pétrifié, et je me sentais moi-même dans un état proche du délire. C'était la même nouvelle qui nous avait affectés si différemment l'un et l'autre. Guernica avait été bombardée et détruite par des aviateurs allemands. Je restai debout et attendis avant de m'asseoir qu'il prononça un mot. Il ne me prêta aucune attention. Il s'était comme éteint. Il murmura « Je tremble pour les villes ». Ce fut à peine audible, mais je fus sûr d'avoir bien entendu. Je ne le compris pas. À l'époque, il n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui de comprendre cette phrase. Il a prévu ce qui allait advenir des villes. Il a prévu aussi le reste.
Les chemins des deux hommes se sépareront, contraints et forcés. Sonnet rejoindra Jérusalem et Canetti, Londres, sous les bombes en 1940. Restent quelques instants de paix à goûter dans l'inquiétude à Vienne. Depuis 1935, Elias et sa femme Vesa sont installés enfin confortablement dans une maison avec jardin au-dessus de la ville. Ils entendent les soirs de douceur la musique qui monte des terrasses en contrebas. Et de belles pages de l'autobiographie décrivent ces moments où on est dans la rumeur de la masse tout en s'en tenant à la lisière avec de très belles voix qui viennent de très loin. Marlène Dietrich, qu'on va entendre, a été convaincue plus tard de chanter en français par le frère d'Elias, Jacques, qui, à l'époque où nous sommes, dirigeait les programmes musicaux de Radio Cité à Paris.
Allons, lève-toi, va-t'en, pars. Le lit n'est pas trop grand pour moi, qui suis lince de t'aimer, t'aimer. Oui, tu m'ennuies avec tes grands mots d'adieu. Moi, j'ai horreur de tous ces discours, mon vieux. L'or me dégoûte et je déteste la cour. Rien ne me plaît, rien que l'amour. Ah. Oh,
France Inter. Intelligence, service.
Monsieur Lebrun, Elias Canetti est contraint à l'exil en Angleterre, avec sa femme. Est-ce dans ce contexte que débutera la préparation de son œuvre Masse et puissance ?
Les deux réfugiés éprouvent l'inconfort de la condition de l'exil. Elias passe le plus de temps possible dans les bibliothèques pour avancer justement dans la rédaction de Masse et puissance. Mais il ne néglige pas non plus les soirées données dans les bonnes sociétés, les parties. Alors d'habitude, observe-t-il avec beaucoup d'humour, dans Les années anglaises, la partie de son autobiographie consacrée à Lille, les Anglais prennent bien garde de ne jamais se toucher. Ils bredouillent leur nom au moment des présentations pour le rendre incompréhensible, et ils s'éloignent dès qu'une conversation pourrait s'établir. Mais le Blitz, en 1940, provoque comme un frémissement, voire un changement. Et les sujets de Sa Majesté, si habitués à rester distants, font masse, en tout cas corps, à leur manière flegmatique.
Il y avait une, tout au plus deux pièces par étage. Et partout, une foule de gens qui buvaient et dansaient. Il se tenait là, le verre à la main, comme il était d'usage ici, mais avec des visages expressifs, ce qui, en revanche, était tout à fait contraire à l'usage. Il y avait parmi eux de jeunes officiers en uniforme, fringants, presque joyeux, et qui lançait des phrases sonores que l'on aurait entendues si elles n'avaient été couvertes par la musique. Les danseurs, les femmes surtout, avaient quelque chose de débraillé et prenaient plaisir à leurs mouvements comme à ceux de leurs partenaires. L'atmosphère était animée et chaleureuse, et personne ne se souciait des bombes que l'on entendait exploser dans les parages. Une société sans crainte et débordante de vie. J'avais commencé à l'étage supérieur et je n'en avais pas cru mes yeux. Chaque pièce paraissait plus animée que celle que l'on venait de quitter. Au premier, on était un peu moins survolté. Des couples assis çà et là se tenaient enlacés. La musique se déversait de haut en bas, chaude, pénétrante. On se bornait pourtant à se tenir enlacés et à s'embrasser. Rien ne paraissait lassif. Dans le basement, comme on appelle ici le rez-de-chaussée, il se produisit une chose absolument étonnante. La porte d'entrée fut brutalement ouverte, des hommes en sueur coiffés de casques de pompiers firent irruption dans la maison et s'emparèrent de seaux remplis de sable qu'ils portèrent à l'extérieur à toute vitesse. Ils ne prirent garde à rien de ce qui se passait dans la pièce. Les couples, moins nombreux qu'à l'étage du dessus, continuaient de se tenir enlacés. Personne ne broncha. Personne ne se sépara de son partenaire. C'était à croire que l'activité fébrile des hommes suants et ahanants ne les concernait en rien. Je m'étonnais de ce flegme anglais que rien ni personne ne semblait pouvoir troubler et commençais à entrevoir en quoi consistait ce puritanisme des Anglais que j'avais toujours admiré et redouté.
Puritanisme, c'est-à-dire peur de toucher l'autre, qui est transformé par l'expérience commune de la peur de la mort en 1940, qui fait qu'on passe au rapprochement avec les autres, mais toujours avec cette indifférence feinte des Anglais. Voilà des observations pour nourrir la rédaction de Masse et puissance à Londres. Mais en fait, la recherche de Canetti l'emmène bien plus en amont, vers l'ethnologie, la sociologie, la philosophie, et selon une manière très singulière, on pourrait dire poétique, sans jamais une note en bas de page. Et en allemand, parce que lui, le juif, le paria, contribue à sauver la langue allemande.
Masse macht Angst. Elias Canetti. Montage von Beate Ziegs. Musik Ute Kannenberg und Joachim Litti.
L'homme occupe une place déterminée. Sûr et affirmant son droit à grands gestes efficaces, il écarte de lui tout ce qui lui vient trop près.
Auf einem bestimmten, sicheren Platze steht der Mensch und hält sich alles, was ihm in die Nähe kommt, mit wirkungsvollen Rechtsgebärden vom Leib.
La vie telle qu'il la connaît est toute fondée sur les distances, la maison dans laquelle il enferme ses biens et lui-même, la condition qu'il ambitionne. Rien ne sert qu'à créer, consolider et augmenter des distances. La liberté de tout élan profond de l'un à l'autre est interceptée. Dans ces distances, l'homme se fige et s'assombrit. Ce sont des fardeaux auxquels il est attelé sans pouvoir bouger de place. Il oublie que c'est lui-même qui s'en est chargé et il aspire à en être délivré.
Dass sie sich selber auferlegt hat und sehnt sich nach einer Befreiung von ihnen. Ungeheuer ist die solche Leider frei.
C'est seulement tous ensemble qu'ils peuvent se libérer de leur charge de distance. C'est exactement ce qui se produit dans la masse. Dans la décharge, ils rejettent ce qui les sépare et se sentent tous égaux. Dans cette compacité où il ne reste guère de place entre eux, où un corps presse l'autre, chacun est aussi proche de l'autre que de soi-même. Soulagement immense. C'est pour jouir de cet instant heureux où nul n'est plus, mais meilleur que l'autre, que les hommes deviennent masse.
Immer hat der Mensch auf die Schritte anderer Menschen gehört. Er war sicher mehr auf sie bedacht als auf die eigenen. Die Kenntnis der Tiere,
von denen l'homme a toujours prêté l'oreille aux pas d'autres hommes. Il s'y intéressait sûrement davantage qu'au sien propre.
Im Rhythmus ihrer Bewegung lernte er sie kennen.
La connaissance des animaux dont il était entouré, qui le menaçaient et auxquels il faisait la chasse, était le savoir le plus ancien de l'homme. Il apprenait à les connaître par le rythme de leurs mouvements.
Die ursprünglich in kleinen Horden lebten, konnten selbst in der ruhigen Betrachtung solcher Spuren
des Beaucoup de ces traces de pas se présentaient en grande quantité, très serrées. Les hommes qui vivaient à l'origine en petites hordes, purs ne serait-ce qu'en examinant ces traces à loisir, se rendre compte de la différence entre leur petit nombre à eux et l'énormité de certains troupeaux.
Das Gefühl des Menschen für seine eigene Vermehrung war immer stark. Es ist darunter keineswegs nur zu verstehen, was man mit einem unzulänglichen Ausdruck als Drang zur Fortpflanzung bezeichnet.
Mais ils voulaient aussi être eux-mêmes plus nombreux. L'homme a toujours nourri un sentiment très fort de son propre accroissement.
La densification de la masse comme le rassemblement en meute. Oui, si on revient un instant en Angleterre, les coutumes anglaises sont quand même bien intéressantes pour observer comment les êtres humains font masse à la façon des animaux qui font meute. Ainsi, la chasse au renard, l'immémorial fox hunting, qui est interdit maintenant, mais qui était bien davantage qu'un simple loisir.
William ?
Milord ?
Avec vos amis, partez vers St. James Lane.
Bien, Milord.
Monsieur Fandor.
Milord.
Vous qui êtes un cavalier émérite, veuillez suivre la meute dans Black Skull Alley.
Bien, Milord.
Nicolas Poirier.
La masse peut prendre, ce n'est pas obligatoire, une première forme de socialité qui est la meute. Voilà. Notamment la meute de chasse qu'on trouve chez les animaux et qu'on peut comparer, hein, même s'il ne s'agit pas d'un animal, aux meutes de lynchage qui sont là pour chasser, pour pourchasser un être humain qui ne cadre pas avec la norme sociale dans laquelle se trouvent ces personnes. On a ça dans les cas de xénophobie, de racisme, le lynchage des Noirs aux Américains, aux États-Unis par exemple.
Donc ça,
c'est une des formes de masse répressive, de masse destructrice, mais c'est pas la seule forme.
Mais je reviens à la meute. En Angleterre, on pratiquait, c'était un grand marqueur politique, la chasse au renard. Et alors, la chasse au renard déléguait la fonction de tuer aux chiens.
Ouais.
C'était pas les hommes.
Non.
Donc là, la meute était comme régulée.
Oui, c'est-à-dire que, bon, là, il fait des parallèles entre les animaux et les hommes, notamment. Dans la saisie, l'absorption, par exemple, la masse a besoin d'assimiler ce qui lui est étranger afin de la supprimer comme altérité. Bon, et le processus d'absorption des aliments, ça se retrouve aussi bien chez les animaux que chez les êtres humains, même si chez les êtres humains, c'est poussé à un degré de sophistication et de préparation qu'il n'y a pas forcément dans la chasse chez les animaux. Mais il s'agit toujours de s'emparer de l'altérité pour la réduire à soi ou pour la tuer, l'éliminer, quoi.
De la meute primitive découlent plusieurs formes, donc. L'une d'elles, c'est la meute guerrière. Comment, demande Canetti, se fait-il que nous acceptons plus facilement de mourir si c'est en même temps que d'autres, sur un champ de bataille ? Ce serait pire de disparaître seul ou bien dans l'opprobre ? Et n'est-ce pas, sur le champ de bataille, la présence, la force d'entraînement d'un chef qui joue ? Oui, parce qu'après la masse, Canetti en vient au thème de la puissance. Alors, on pourrait s'accorder sur le type du chef, le type de la puissance les plus acceptables. Le chef d'orchestre. Les instrumentistes le regardent de face, les auditeurs de dos, mais tous le considèrent.
Monsieur, c'était très bien.
C'était très bien.
Vous, c'était bien là-bas. Vous, c'était bien... Enfin, c'est comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu. On ne vous entend jamais. Hein. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Ce n'est pas un citron. Ce n'est pas un orgueilleux. De l'orgueil, bon sang. Bon sang. Enfin, c'est de la bouillie, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. Hop.
On peut dire que c'est la bonne puissance. C'est le chef qui orchestre tous les solistes, enfin, tous les instruments dans une même direction. Voilà. De façon à ce qu'on ait vraiment une symphonie harmonieuse où tous les instruments qui jouent leur partition jouent aussi la partition de l'ensemble. Là, le chef d'orchestre, il n'est pas vraiment chef, en fait. Il ne fait qu'orchestrer, en fait. C'est un moyen pour la masse des musiciens de s'accorder les uns avec les autres. Au fond, un bon chef d'orchestre doit disparaître en tant que chef d'orchestre. Voilà. Dans ce cas-là, on a quelque chose qui, alors, effectivement, il y a toujours des formes de paranoïa possibles dans la création artistique. L'auteur qui se croit, traversé par la grâce d'une inspiration divine et qui se met à mépriser effectivement le commun des hommes qui ne lui arrive pas à la cheville. Mais c'est une forme qui peut être, selon Canetti, contrôlée par un travail sur soi de l'artiste.
Bon, enfin, on peut espérer quand même de la musique qu'elle soit un bien commun, même maltraité par Louis de Funès. Et un bien commun, c'est un thème de la philosophie politique, ça implique... pour la recherche de l'intérêt général, un contrat. Quand Hobbes, au XVIIe siècle, imagine son Léviathan, son souverain absolu, le pouvoir absolu, il est justifié quand même par un contrat social. C'est le chaos, la guerre de tous contre tous. Alors, on délègue un pouvoir absolu, mais dans une démarche rationalisée.
Dans la perspective d'un état de nature qui ne serait régulé par aucune loi, par aucun pouvoir, les hommes seraient tentés de se faire la guerre. Et pour éviter, donc, pour sortir de la peur de la mort violente, ils décident de s'associer et de déléguer leur volonté à un pouvoir souverain et d'obéir à ce pouvoir souverain dont ils vont avoir peur, hein, de la sanction en cas d'infraction. Bon. Alors, chez Elias Canetti, cette construction est beaucoup trop rationalisante, trop rationnelle, au sens où ce qui sera toujours présent, c'est la menace de mort que fera peser le pouvoir, même dans ses formes les plus démocratiques et articulées autour de l'état de droit, le pouvoir sur les sujets qui lui doivent obéissance. En fait, on n'oubliera jamais que derrière tout ordre, il y a toujours une menace de mort cachée. Donc effectivement, le fait d'obéir à des lois ne doit pas nous faire oublier que le pouvoir reste toujours menaçant.
Et alors, par exemple, la peine de mort va avoir une place centrale dans ce qu'il dit de l'État.
Complètement. Il dit la logique tendancielle de tout pouvoir, c'est de donner la mort. Voilà. Et effectivement, c'était un opposant absolument hostile à la mort. Et d'ailleurs, son dernier livre paru à titre posthume s'intitule « Le livre contre la mort ». Bon, qu'il n'a jamais achevé, c'est un ensemble de recueils et de fragments, mais je crois qu'en fait, toute son œuvre est une lutte contre la mort, pas simplement la mort en tant que phénomène biologique, mais la mort en tant que phénomène anthropologique, qui peut être porté par un pouvoir, et qui lequel pouvoir aura toujours cette menace envers ceux qui lui obéissent.
C'est-à-dire que s'il lui arrive de décrire des scènes d'exécution publique, je ne sais pas s'il le fait, c'est sous la forme d'un lynchage amélioré, quoi.
Oui, c'est ça. Oui, derrière tous les rituels, le fait que l'État confisque la violence à son profit, c'est sans doute un progrès. Mais il ne faut pas oublier que les États totalitaires du XXe siècle, précisément, ont confisqué de manière unilatérale la mort à leur profit. Et ça a donné ces formes de pouvoir absolument terrifiantes, dont Canetti est le contemporain, même s'il n'en parle pas de manière absolument explicite.
La figure la plus inquiétante, constante de la puissance, c'est celle du despote survivant. Oui, il est survivant parce qu'il a éliminé ses concurrents. Il reste debout, alors que les autres sont à terre. Et il rêve de voir disparaître les derniers qui présenteraient un danger. Pouvoir menacer les autres de mort, c'est la condition, le ressort du pouvoir.
Un jour viendra où il sera seul, devant un empire plein de morts et de parents de morts.
Caligula d'Albert Camus.
Pardonnez-moi, mais les affaires de l'État sont pressantes. Intendant, Tu feras fermer les greniers publics. Je viens de signer le décret, tu le trouveras dans la chambre.
Oui, mais...
Demain, il y aura famine.
Mais le peuple va gronder.
Je dis qu'il y aura famine demain. Tout le monde connaît la famine, c'est un fléau. Demain, il y aura fléau. Et j'arrêterai le fléau quand il me plaira. Savez-vous que nous travaillons ferme avec Hélicon? Nous mettons au point un petit traité de l'exécution dont vous nous donnerez des nouvelles. Soyons généreux, Hélicon, découvrons-leur nos petits secrets. Allez, section 3, paragraphe 1er.
L'exécution soulagée des livres, elle est universelle, fortifiante et juste dans ses applications comme dans ses intentions. On meurt parce qu'on est coupable. On est coupable parce qu'on est sujet de Caligula. Or, tout le monde est sujet de Caligula, dont tout le monde est coupable. D'où il ressort que tout le monde meurt, c'est une question de temps et de patience.
Maintenant, messieurs, vous pouvez disposer.
Il analyse ce qu'il appelle la figure du despote paranoïaque.
Alors expliquez ça, le despote paranoïaque. Alors, c'est un survivant.
Voilà, c'est
et
un
survivant. Le survivant, il est heureux d'avoir survécu, mais il est toujours inquiet d'en voir d'autres qui survivent.
De la violence qu'il pourrait subir de la part soit de ses ennemis, soit de ses proches amis. Et il devient, par là même où il est déjà à la base, on ne sait pas, paranoïaque. C'est-à-dire qu'il va tendre à contrôler... Si vous voulez, contrôler tous les processus qu'il voit autour de lui. Notamment, il tend à figer les individus dans des identités qu'il peut maîtriser. Et il refuse la possibilité même de métamorphose. C'est-à-dire que les individus ne soient pas prisonniers d'une certaine identité, mais qu'ils puissent, au fond, circuler d'une identité à une autre, sans qu'elles soient jamais exclusives les unes des autres, d'ailleurs au niveau national. Hein. Il a beaucoup insisté, Canitis, sur le phénomène de la pluri-appartenance. Voilà. On a bien des appartenances, hein, on ne vient pas de nulle part, mais elles sont multiples. Et on ne peut pas les assigner à une unique filiation. Il faut prendre en compte, alors on ne parlera pas encore à son époque de multiculturalisme, mais de multi-appartenance. Hein, pour ne pas trop trouver un mot trop jargonnant.
Les despotes veulent éteindre nos possibilités de métamorphose. Le livre qu'a consacré Nicolas Poirier à Canetti est titré « Les métamorphoses contre la puissance ». Et illustration dans le parcours personnel de Canetti. Bah, quand il reçoit le Nobel, il prend un malin plaisir à se présenter sous les apparences les plus diverses et chacune a sa part de vérité. En vertu de ses ascendances lointaines, il dit « Je suis un écrivain espagnol de langue allemande. » Mais il peut dire aussi bien « Je suis un écrivain allemand de culture espagnole. » Ou encore « Un écrivain autrichien naturalisé britannique, résident en Suisse. » Il a bien le droit, lui aussi, à la métamorphose.
Monsieur Lebrun, Elias Canetti vit maintenant en Suisse. Il est couvert d'honneur. Peut-il imaginer pour l'avenir un pouvoir qui soit réparateur?
Alors, je ne sais pas s'il le trouve à Zurich, mais rappelons ce que disait son père avant la Première Guerre. Allons en Angleterre. Il l'a trouvé en Angleterre, c'est là que nous serons libres, répétait le père de Canetti. Alors, le puritanisme, on l'a dit, est biface. D'un côté, il isole l'individu, mais d'un autre, il cultive l'indépendance de la personne. Et il a partie liée avec le parlementarisme à l'anglaise. C'est un régime, au total, dit Canetti, préférable à bien d'autres. Au moins, si vous êtes membre d'un parlement et que vous êtes minoritaire, vous ne craignez pas d'être tué par les membres de la majorité. Ou alors, si une masse furieuse venait envahir le parlement, comme les sans-culottes à la Convention à Paris en mai 93, eh ben, vous ne seriez plus dans un parlement. Le parlementarisme, lui aussi, est biface. Et son avenir est toujours menacé. Ainsi, Elias Canetti se méfiait-il beaucoup des conséquences du thatchérisme, l'ère du « moi-je ».
Dans les années anglaises, il dit qu'elle a défiguré l'Angleterre et qu'elle est... il annonce d'ailleurs ce qu'on appelait les « youpies », quoi, les traders. Hein. Elle annonce effectivement une société de propriétaires, voire de rentiers, effectivement, qui détruit au fond toute forme de vie commune qui ne serait pas fondée sur...
L'intérêt.
Oui, voilà. La cupidité, le vin, le... Voilà, tout à fait. Oui, il a une haine profonde pour Margaret Thatcher.
Oui, mais il y a aussi des pages bien intéressantes dans les années anglaises sur le powellisme, un peu oublié en France. Enoch Powell était un ministre distingué du Parti conservateur, qui plus est linguiste, philosophe, poète... Professeur de grec, il s'entretenait assez souvent avec Elias Canetti. Mais en 1968, lui a pris l'idée de faire un discours sur les ravages de l'immigration et les avantages de la remigration. Les étrangers à l'Angleterre repartant de chez eux. Le powellisme a eu un moment de très grande popularité. Même mon coiffeur, disait Canetti, m'en parlait dans son salon.
Un pays n'est jamais ouvert complètement inclusif. Il peut redevenir exclusif et on peut réserver la démocratie aux autochtones, c'est-à-dire réserver les droits démocratiques aux gens nés sur le sol, je sais pas, anglais ou le sol français ou le sol allemand. Donc effectivement, faut se méfier aussi avec cette notion de souveraineté populaire. Le souverain peut décider aussi d'annihiler justement la démocratie. Au sein même de la démocratie. Donc ça, c'est un véritable danger. Il faut guetter ça au sein même des institutions libérales et démocratiques. Que ce soit en Angleterre ou ailleurs.
Pour finir sur l'après-Nobel, Canetti était célèbre pour de nombreuses raisons, mais pas pour sa modestie. Néanmoins, il a consacré son discours du Nobel à saluer de plus grands que lui, Kafka, Musil, et les années qui lui restaient à vivre, il les passa assez retirées, sans utiliser son prix pour multiplier les prises de position. On l'a entendu, cependant, pendant la première guerre contre Saddam Hussein et pendant la guerre en ex-Yougoslavie, le moment où le maire de Sarajevo, pris sous les tirs serbes, parlait d'urbicide. En 1937, le professeur Sonnet avait dit à Canetti « Je tremble pour les villes ». Toute son œuvre a été consacrée à répondre à cette question et à celle de la peur de la mort. Il fallait discréditer la mort, répétait-il. Merci à Martine Lebovici qui a consacré dans l'excellent numéro d'Europe Elias Canetti de mai 2020 un article au Nobel. Nicolas Poirier a publié Canetti, les métamorphoses contre la puissance, c'est chez Michalon. Les lectures, Alexis Chevalier. La prise de son, Yann Fressy. À la Maison de la Radio et de la Musique, Pierre-Yves de Rolin. Les agents d'intelligence service, Aurore Juvenel, Frédéric Martin, Franck Olivard. C'était une réalisation d'Audrey Ripouille. Tout de suite après le journal, Tanguy Pastureau et Alex Vizorek. Pastèque.